Radio Okapi. Le journal Jacques-Yves Molima. Le forum Indaba Mining s'est ouvert ce lundi à Cape Town en Afrique du Sud. La RDC prend une part active à ses assises. Dans ce journal, nous reviendrons sur les enjeux de participation de la RDC dans ce forum. 15 morts, dont une dizaine d'enfants déplacés et un militaire FRDC, la nuit dernière au site de Loda, dans le territoire de Djougou, à la suite d'une nouvelle attaque de Codeco. Un bilan qui pourrait être le plus lourd, n'eût été l'intervention de la MONUSCO et qui a délogé ses assaillants, selon la société civile Force Vive. Enfin, nous recevons dans cette édition du journal le bourgmestre de la commune rurale de Kalima au Maniema, Kiko Biafata Kifilemon, nous parle de l'état des lieux de sa commune qui fait face à plusieurs difficultés, tant sur le plan administratif que social. Voilà tout pour le sommaire. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et bienvenue dans cette édition du journal. Ouverture ce lundi 9 mai à Cape Town en Afrique du Sud du forum Indaba Mining. Le premier ministre Sam Maloukonde, accompagné de plusieurs ministres, dont celui des mines et de la communication et médias, des membres de la FEC, du gouverneur du Haut-Katanga, ainsi que plusieurs conseillers de la présidence, participe à cette rencontre qui va durer 3 jours. Cynthia Bachizi, Nabizana, quels sont les enjeux de participation de la RDC à ce forum?
Avant de parler des enjeux, quelques chiffres pour planter le décor. Selon les organisateurs Indaba Mining, c'est plus de 6000 participants chaque année. Ils représentent quelques 800 multinationales et environ 40 délégations gouvernementales et paragouvernementales. Le premier ministre congolais Sam Maloukonde, dont l'allocution est attendue ce mardi, est à la tête d'une importante délégation. Nous sommes vraiment dans une optique de vendre l'image de la RDC en suscitant un certain attrait dans le chef des potentiels investisseurs. Il faut savoir que le pays participe dans un contexte de valorisation de ses minerais, surtout ceux qui sont dits stratégiques, le cas du cobalt. Cela signifie simplement que la RDC ne peut plus se limiter à exporter ses minerais stratégiques et importer les biens et équipements qui en découle. Il faut pour cela développer une industrie minière qui soit compétitive localement, et c'est là que participer à ces genres de conférences minières peut être intéressant. Il faut vraiment s'inscrire dans une perspective de conclure des partenariats qui soient gagnant-gagnant pour que le secteur minier soit véritablement un levier du développement socio-économique tant espéré.
Autre nouvelle, après l'effectivité de la paye de 30% d'augmentation sur les salaires des fonctionnaires, le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique annonce la tenue dans les prochains jours d'un forum sur la politique salariale afin d'éliminer les inégalités des primes dans l'administration publique. Il a dit au micro des JR Lungembo.
Moi, j'ai besoin de voir les agents publics qui en sont bénéficiaires dire oui, ça c'est une bonne mesure. Ça c'est une bonne mesure pour cristalliser l'acquis, pour dire que ça devient un acquis qu'il faut pas toucher. Ensuite, il y a les processus de l'amélioration de la base. Face à toutes ces disparités, parce que ça revient avant de revenir sur le budget annexe et la question des enseignants, il faudrait que nous puissions déclarer la guerre aux disparités. Ça, je l'ai dit. Disparité, injustice. Parce que je ne comprends pas que au sein d'une même administration, qu'on ait des primes et qu'on ait des salaires de base qui soient inégalités. Ça, c'est inacceptable. Qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, j'ai demandé un rapport qui m'a été déposé. Sur base de ces rapports, je proposerai d'ici quelques semaines, en tout cas 2 ou 3 semaines, au gouvernement, l'organisation d'un forum devant nous permettre de réformer la politique salariale de notre pays. Ce qu'il faut, c'est cela. Il faut réformer la politique salariale, remettre à plat un certain nombre de choses, essayer d'uniformiser les primes au sein des administrations, et puis, au finish, essayer de faire une certaine dilution des primes en faveur des salaires de base.
Notez que le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, est l'invité du magazine Parole aux auditeurs, tout à l'heure à 13h05, heure de Kinshasa. Et puis les députés nationaux sont préoccupés par la situation des non-paiements depuis 2 ans de la prime des enseignants ayant surveillé le test national de fin d'études primaires. Tony Mwaba et Nicolas Kazadi se sont expliqués hier lundi sur la question devant la commission mixte Ecofin socioculturelle de la chambre basse du Parlement. En vue d'obtenir le paiement des enseignants avant la tenue du prochain TENAFEP, en juin prochain, les deux commissions projettent aussi d'inviter l'inspecteur général des finances et le ministre du budget, Michel Kifindangoy.
Au sortir de cette audition, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique s'est dit satisfait d'avoir éclairé la lanterne des élus nationaux et espère voir la vérité éclater au grand jour sur les prétendus détournements qu'il avait opposés avec l'inspecteur général des finances, Tony Mwaba.
Monsieur Alinguet avait crié un moment qu'il y a eu détournement de 16 millions. Je viens de présenter la situation. Il appartient maintenant à tous ceux qui interviennent dans la chaîne de dépenses de venir expliquer où sont partis les fonds destinés à la paye des intervenants du TENAFEP, édition 2020, édition 2021.
Entre-temps, l'édition 2022 du TENAFEP est déjà dans les pipelines et les prestataires tiennent d'abord et avant tout à l'apurement des arriérés de 2020-2021, souligne le coprésident de la commission mixte, Léon Mondolé.
Ça fait 2 ans, les intervenants à ces tests n'accèdent pas à leur rémunération. Et si on n'est pas attentif à cette question, l'exercice 2022 risque de ne pas se dérouler normalement.
À en croire Léon Mondolé, la commission mixte ECOFIN socioculturelle invitera aussi le ministre du Budget et l'IGF, qui est très cité dans ce dossier, pour voir ensemble comment décanter cette situation.
Autre nouvelle, Amnesty International demande au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, de révoquer immédiatement tous les pouvoirs accordés aux juridictions militaires pour juger les civils dans le cadre de l'état de siège. C'est l'une des recommandations contenues dans les rapports RDC, la justice et les libertés en état de siège au Nord Kivu et en Ituri. Ce rapport a été publié et présenté à la presse ce mardi à Kinshasa par Amnesty International. Les détails avec vous, Jeff Ngoy.
Ce rapport insiste que le président Tshisekedi veille à ce que l'état de siège ne devienne pas un régime permanent en établissant un plan de sortie clair. La militarisation du système judiciaire a encore davantage mis en péril l'accès à la justice et le droit à un procès équitable, allègue Amnesty International. À l'en croire, en mars 2022, les pouvoirs donnés à la justice militaire de juger des civils ont été révis pour couvrir une dizaine d'infractions pénales. Mais cette révision, selon Amnesty, n'est toujours pas conforme aux normes internationales. L'état de siège actuellement en vigueur en Ituri et au Nord Kivu n'a pas permis d'améliorer la protection de la population civile ni la situation générale en matière des droits humains, rapporte l'ONG. Elle demande au gouvernement notamment de libérer immédiatement toutes les personnes détenues arbitrairement et de leur donner accès à la justice et à des recours appropriés. Amnesty a mené ses recherches sur l'état de siège d'août 2021 à avril 2022. Son rapport est fondé sur 44 entretiens réalisés par téléphone avec des magistrats, avocats et défenseurs des droits humains et des journalistes.
En Ituri, une nouvelle attaque des miliciens de la CODECO a fait 15 morts, dont une dizaine d'enfants déplacés et un militaire FRDC la nuit dernière au site de Loda dans le territoire de Djougou. Selon la coordination provinciale de la société civile Force Vive, ce bilan serait plus lourd sans l'intervention des casques bleus de la MONUSCO qui ont délogé ces assaillants. Cette structure estime que cette énième attaque meurtrière contre des civils est un sabotage de l'armée. Elle demande au chef de l'État de lever la mesure de l'état de siège qui a montré ses limites. Martial Kizabiamongo.
Cette nouvelle attaque meurtrière est intervenue aux environs des 20h lundi au site de déplacés de Loda situé à 5 km du centre commercial de Fataki dans les territoires de Djougou. La coordination de la société civile Force Vive de l'Ituri qui cite des témoins indique que la population a été surprise par des tirs nourris de ces rebelles. 14 civils dont 10 enfants ont été abattus par balles et à la machette. Son coordonnateur Didoné Lossa parle des morts des trop et demande au président de la République de mettre fin à l'état de siège qui n'a pas produit les résultats escomptés, notamment d'imposer la paix à l'Ituri.
C'est inimaginable que les sites de déplacés soient attaqués pour énième. La levée immédiate de l'état de siège, on doit diligenter urgentement une enquête.
Cette structure citoyenne salue l'intervention du contingent népalais de la MONUSCO, arrivé le premier sur le lieu de l'attaque, avec les FRDC arrivés quelques minutes après l'intervention de des forces a permis de limiter le nombre de morts. Au cours des accrochages avec ces assaillants, un militaire de FRDC est mort sur les champs de bataille. Signalons qu'environ 70 personnes ont été tuées dans les territoires d'Ndjougou en l'espace de 2 jours. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Et puis au Nord Kivu, le tribunal militaire de garnison de Beni, siégeant en matière répressive au premier degré, a condamné hier lundi deux collaborateurs de l'ADEF à 20 ans de servitude pénale principale. Les prévenus Kianza Mabimbi et Kambale Pelekini, tous des Congolais, ont été reconnus coupables de participation à un mouvement insurrectionnel. Le tribunal a également décidé que ces deux condamnés paieront chacun la somme de 300 000 francs congolais à titre des frais d'instance. 4 mois après l'ouverture des procès des combattants ADEF et Mai Mai, ainsi que leurs collaborateurs, le tribunal militaire garnison de Beni a déjà condamné 18 combattants Mai Mai et 28 rebelles ADEF ainsi que leurs collaborateurs à des peines différentes. Parmi les condamnés ADEF, on trouve une Kenyane, un Rwandais et 2 Ougandais. On reste dans la région. La société civile de Kamandi dans le territoire de Lubero, toujours au Nord Kivu, s'inquiète de l'augmentation des cas de malnutrition ces derniers jours dans cette localité de la zone de santé de Kaina. Plus d'une centaine d'enfants seraient concernés. Sami Sakoumi, président de la société civile locale, qui dit avoir tiré ses données au niveau du centre de santé de référence de Kamandi, affirme que cette malnutrition est la conséquence de la carence de produits agricoles depuis quelques semaines dans cette zone. Écoutez ses explications au téléphone de Grace Amzati.
Cet effet-là a occasionné des cas de malnutrition qui est visible dans l'agglomération, comme ici à Kamandi. Les sources que nous avons à provenance du centre de santé de référence, nous avons 59 cas d'enfants de 6 à 59 mois admis avec malnutrition aiguë sévère. Il y a encore 110 cas d'enfants de 6 à 59 mois qui souffrent la malnutrition modérée. Et quant aux femmes, il y a 174 cas de femmes allaitantes vivent mesurées avec périmètre brachial inférieur à 230 mm qui souffrent la malnutrition. Il y a aussi les femmes enceintes. Nous avons 59 cas qui souffrent de la malnutrition et qui vivent mesurées avec périmètre brachial inférieur à 230 mm. La plupart de ces femmes et enfants sont des déplacés. Ils sont là sans aucune assistance humanitaire ni gouvernementale.
Et puis actuellement, la province du Sud Kivu est en train de connaître des épidémies de rougeole et celle de choléra dans certains territoires. Cette situation reste jusqu'ici inquiétante et la division provinciale de la santé dit être en train de la gérer. Les autorités sanitaires recommandent à la population de bien respecter les mesures d'hygiène et les programmes de vaccination de routine afin d'éviter ces maladies. Jean-Baptiste Tonga nous fait le point.
Selon la division provinciale de la santé au Sud Kivu, la zone de santé de Lulingu dans le territoire de Shabunda a eu à notifier la semaine dernière 23 cas de rougeole, alors que la semaine antérieure y avait 19 cas. Aucun cas de décès n'est signalé. Et dans le territoire de Kabare, la croissance des cas de choléra dans la zone de santé de Katana devient aussi inquiétante. La semaine antérieure, on a eu 16 cas, dont 2 décès, et la semaine qui vient de s'écouler jusqu'à samedi dernier, 17 cas. Écoutons les propos de Dr Baizire, chargé de la communication à la division provinciale de la santé.
Il y a certains parents qui n'arrivent pas à faire vacciner correctement leurs enfants. Par moment, ce sont des ruptures effectivement de vaccins. Et pour le moment, nous sommes en train de planifier une campagne de rougeole pour voir comment augmenter la protection des enfants contre cette maladie. Et Katana est déjà en épidémie de choléra. Nous avons approvisionné la zone à médicaments de prise en charge. Probablement, nous aurons à contenir quand même cette épidémie.
Notons que depuis janvier 2022 jusqu'aujourd'hui, la zone de santé de Lulingu a déjà enregistré 195 cas de rougeole et la zone de santé de Katana plus de 33 cas de choléra avec 2 décès. Bukavu, Jean-Baptiste Ntonga, Radio Okapi.
Autre nouvelle, la société civile de Sakania dans le Haut-Katanga alerte sur les difficultés de conservation des corps à Sakania dans le Haut-Katanga. Le frigo mortuaire de l'hôpital général de référence de Sakania est en panne. Les familles sont obligées de parcourir plus d'une dizaine de kilomètres pour atteindre la cité de Mokambu. D'où ces cris de détresse de Jean Olondo, coordonnateur de la société civile du Congo, territoire de Sakania, joint par Jean Ngandou.
Nous vous informons que les frigos mortuaires de l'hôpital général de référence de Sakania a connu une panne technique et cela depuis un mois. Raison pour laquelle nous ne cessons pas de formuler des plaidoyers auprès des autorités compétentes qui nous écoutent pour nous venir en aide afin de réparer ces frigos mortuaires. Car actuellement nous amenons le corps à l'hôpital de Mokambo et entre Mokambo et Sakania c'est 50 km. Et nous partons après 3 jours, on va à Mokambo pour récupérer le corps et venir l'inhumer à Sakania. Voyez les coûts pour les gens qui ont perdu les nerfs. Il y a des véhicules qui tombent en panne, prennent beaucoup d'air. C'est à ce moment-là qu'on arrive à trouver que certains corps se décomposent, puisque ça prend un peu beaucoup de temps au niveau de la section Mokambo et Sakania. Il y a urgence pour que toute autorité compétente qui nous écoute de bonne foi puisse nous venir au secours.
L'administrateur du territoire de Sakania qui confirme l'information indique que sa hiérarchie est déjà saisie pour une solution dans le meilleur délai. Toutefois, Johnny Asani Yuma demande aux familles éprouvées qui ne peuvent pas amener les corps à Mokambo de procéder à l'inhumation au plus tard un jour après le décès d'un de leurs. À Inongo, chef de la province du Maïndombe, le prix du litre d'essence est passé de 2700 à 4500 francs congolais. Par conséquent, une course de taxi-moto qui coûtait 500 revient aujourd'hui à 1000 francs. Pour le cadre de concertation provinciale de la société civile, cette hausse des prix met en difficulté la population qui n'a pas assez de moyens pour en faire face. Isidore Bolikala, son président, fait savoir que la plupart des habitants commencent maintenant à faire plus les pieds en lieu et place de la moto qui, selon lui, est devenue un luxe. Il appelle le gouvernement congolais à revoir la politique économique du pays pour résoudre ce problème de carburant, du prix de carburant, afin que la population se retrouve. Isidore Bolikala l'a dit hier lundi à Irène Bouma.
Le problème de hausse des prix des produits, les carburants aussi à prix de l'ascenseur. Comme vous savez que nous avons l'unique source d'approvisionnement, c'est Kinshasa. Quand Kinshasa, l'ascenseur monte, il faut vous attendre qu'à l'intérieur ou le coin du pays, c'est x2, x3, parce que si le litre, c'est de 4000 à 4500 les litres. D'abord, c'était à 2700. C'est la raison pour laquelle aussi le coût de transport des taxis-moto a monté. Cela a passé de 500 à 1000 francs dans la ville d'Inongo. Comment voulez-vous comprendre que ça ne peut pas déranger la population? La population ici est une population agro-pastorale qui n'a pas suffisamment de moyens. Ça dérange tous les budgets. Maintenant, les gens font plus les pieds que les motos, parce que les motos deviennent tout un luxe. La vie, ça dit, nous vivons normalement, mais le taux de carburant est à la flambée. Nous demandons aux autorités de s'impliquer au gouvernement de voir leur économie afin d'aider la population pour que la population soit calme.
Actualité internationale.
En Libye, la production pétrolière toujours bloquée par l'absence de mécanismes de répartition de revenus. Malgré les pressions américaines, une reprise de la production pétrolière bloquée depuis 3 semaines ne semble pas à l'ordre du jour en Libye. Dans l'état actuel des choses, les camps de l'Ouest libyen s'opposent à la distribution de la fortune générée par le pétrole. Quant à l'Est, il utilise comme d'habitude ses nerfs de la guerre pour exercer des pressions et obtenir gain de cause.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal, c'est le bourgmestre de la commune rurale de Kalima, Kiko Biafata Kifilomen, nous parle de l'état des lieux de sa commune qui fait face à plusieurs difficultés. Il s'entretient avec Florence Kizalunga. Suivez.
Monsieur Kiko Biafata Kifilomen, bonjour.
Bonjour, madame journaliste.
Bourgmestre de la commune rurale de Kalima, parlez-nous un peu de l'état de lieu de ta commune.
Oui, je suis le bourgmestre de la commune, comme vous l'avez dit. J'aimerais seulement vous parler brièvement par rapport à la situation de mon entité, comment fonctionne. Les bureaux de la commune fonctionnent dans des maisons de location. On paye les frais de location. C'est à 150 000 francs congolais. En outre, il y a les institutions universitaires, l'ISTEM, l'ISP, l'IML, qui fonctionnent dans les anciens bâtiments de la Sakima abandonnée. Leurs terrains sont là. Il faut seulement une construction des bâtiments par l'État congolais pour que ces institutions trouvent leurs bâtiments propres à elles. En outre, il y a aussi les écoles primaires et secondaires qui sont aussi nombreuses dans la commune de Kalima, qui fonctionnent aussi dans des conditions difficiles. C'est une difficulté de la part de l'enseignement. Alors, il y a aussi les cas des agents de l'État qui ne sont pas payés, qu'ils sont en train d'encadrer dans la commune. Beaucoup d'agents sont sortis dans l'arrêté du ministre national, mais ces numéros ne sont pas mécanisés et payés. Ils traînent dans leur poche. On attend toujours le gouvernement qui doit intervenir pour que ces agents travaillent dans de bonnes conditions, puisqu'ils sont irréguliers pour se débrouiller pour vivre dans leur famille.
Kalima, c'est une cité minière. Quelle est la situation socio-économique de la population?
Effectivement, la commune de Kalima, c'est une ancienne direction, c'est la direction générale de la Sakima au Congo. Là où il y a aussi des maisons de traitement des minéraux et beaucoup aussi des commerçants, des opérateurs économiques qui achètent de l'or. Mais la commune ne bénéficie rien, n'est pas alignée pour les redevances de tous ces minéraux qui se produisent dans la commune pour aider mon entité au développement et à l'avancement de tous les projets que nous avons pour notre commune.
Comment expliquer les minéraux extraits sur place mais qui ne bénéficient pas à la population?
C'est-à-dire que les minéraux qui sont ici sont traités. Ils sont extraits dans des entités en dehors de la commune. Il y a par exemple le secteur de Béa, il y a les territoires de Kailo et d'autres milliers.
Et nous avons appris que dans les sites miniers, il y a la présence des enfants. Confirmez-vous cette information?
Effectivement, nous avons toujours dit, la police des mines fait toujours la chasse aux enfants mineurs dans des sites miniers. Ils disent toujours qu'ils ont des difficultés puisque leurs parents ne sont pas en mesure d'aller faire étudier. C'est pourquoi ils sont en dispersion. Mais l'effectif seulement est trop maigre pour la police des mines. C'est pourquoi je vous ai demandé de renforcer la police et la police des mines pour vraiment entrer, pour m'aider dans cette situation.
Est-ce qu'on peut avoir une idée sur les routes de desserte agricole de cette commune?
Oui, la commune de Kalima a cette grande difficulté. La route qui circule dans tous les quartiers, nous demandons seulement la dotation des matériels à travers les gouvernements, à travers les organismes nationaux et internationaux, même aux gens qui sont responsables des maisons de traitement ici à Kalima, peuvent nous aider pour nous accompagner. La jeunesse est là, la main d'œuvre est là, mais il n'y a pas de matériel pour ces travaux.
Qu'en est-il des structures sanitaires? La population bénéficie des soins de qualité?
Effectivement, il y a des structures sanitaires qui sont ici, mais seulement il n'y a pas des matériels suffisants pour les soins de qualité.
Monsieur le bourgmestre, en vous entendant parler, on a l'impression que tout ne va pas, ce qui a un sérieux problème. Profitant de cette occasion, qu'est-ce que vous pouvez dire au gouvernement?
Je demande seulement au gouvernement comment chercher une solution aux difficultés de mon entité. La population de Kalima a besoin de vivre comme partout ailleurs.
Est-ce que la commune reçoit des rétrocessions? Si oui, les montants reçus vous permettent de bien travailler?
Pour cette année, par exemple l'année 2021, nous avons reçu 4 mois la rétrocession. Ça ne suffit pas pour répondre à nous tous les besoins de notre entité. En tout cas, ce que je peux demander, c'est que le gouvernement peut penser à réajuster les montants puisque ça ne suffit pas pour répondre aux besoins de développement de notre commune.
Monsieur Kikobie Fata Kifilemon, la Radio Okapi vous dit merci.
Moi, je remercie aussi la Radio Okapi.